Et 19h40, Kinshasa, dialogue entre Congolais dans une présentation de Claude Quinza.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette émission Dialogue entre Congolais du lundi 9 février 2009. Le gouvernement Mouvite au totalise 100 jours demain mardi 10 février 2009. Question, comment peut-on juger l'action de ce gouvernement par rapport à ses trois priorités, à savoir la paix à l'est du pays, l'accélération des grands chantiers et l'économie. C'est ce que nous abordons ce soir avec nos invités, Donatien Mazono, député national et membre du parti politique Falou, parti du Premier ministre Adolfo Mouzito, Albert Mpeki, député national MLC, donc de l'opposition. Il est secrétaire national du MLC, chargé de relations avec les partis politiques et associations. Et depuis la ville de Kisangani, dans la province orientale, nous aurons en ligne Jean Otemi Kongo, il est professeur au département de sciences politiques et administratives de l'université de Kisangani et professeur visiteur à l'université de Goma et à l'université Gabin de Butembo, Nord Kivu. Il intervient dans cette émission comme analyste politique. Nous dédions cette émission à notre collègue Joachim Kalumendo du Desk Swahili de Radio Kapi qui nous a quittés pendant le week-end.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Quel bilan faire des trois premiers mois du gouvernement Mouzito sur le plan politique, sécuritaire et économique? Tentative de réponse avec notre confrère Guy Maté qui s'y est penché.
Au mois de novembre 2008, lorsque le Premier ministre Adolfo Mouzito est investi, il se donne trois priorités, à savoir la paix à l'Est, l'accélération des grands chantiers ainsi que le redressement de l'économie. Sur le plan économique, à ce moment-là, les taux d'échange est de près de 560 francs congolais, le dollar américain avec un taux d'inflation d'environ 25%. Deux événements marquent cette période, à savoir la guerre qui se vit à l'est de la RDC et le début de la crise financière internationale. Le 9 janvier 2009, les taux d'échange est de près de 710 francs congolais le dollar avec un taux de croissance d'à peu près 8%. Trois jours plus tard, soit le 12 janvier, la monnaie s'apprécie avec un taux de 677 francs congolais le dollar américain. Cette situation est liée à la réaction du gouvernement qui, pour éponger la masse des francs congolais, va déverser sur les marchés 10 millions de dollars américains. Mais cette situation ne dure pas parce que le 6 février 2009, l'on enregistre un taux de 710 francs congolais pour un dollar. Donc, entre le 10 novembre 2008 et le 6 février 2009, le taux des francs congolais connaît une dépréciation de 23%. Sur le plan sécuritaire, le CNDP déclare le 16 janvier dernier la cessation des hostilités et la mise à la disposition du haut commandement des FRDC de toutes ses forces combattantes en vue de leur intégration dans l'armée nationale. Le 21 janvier 2009 commence l'opération conjointe entre les FRDC et les forces de défense du Rwanda contre les FLR. Le 22 janvier dernier, Laurent Kunda est arrêté au Rwanda. Depuis la fin des hostilités déclarées par le CNDP, on assiste au retour de quelques déplacés dans leur milieu d'origine.
Merci beaucoup Guy Maté. Je me tourne directement vers vous, Monsieur Donatien Mazano, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur le journaliste.
Vous êtes député national et membre du parti politique Palu, donc d'Antoine d'Adolphe Mouzito. Nous allons d'abord commencer par parler paix à l'est du pays, parce que c'est l'une des préoccupations de la population congolaise, et c'était d'ailleurs l'une des trois grandes priorités du gouvernement Mouzito. Je m'en vais vous proposer quelques réactions de nos auditeurs. Il y a par exemple Pascal Kakoura de Magui dans la province orientale qui dit bravo au gouvernement Mouzito, car ce qu'il fait est visible à l'œil nu. Mais c'est une opinion qui n'est pas du tout partagée par Cyril Mabingo de Goma dans la province orientale. Pour lui, il dit que le gouvernement est arrivé à mettre fin à la guerre du CNDP, mais à Goma, on a l'impression qu'il a créé une autre guerre qui risque d'être plus longue que la première, à savoir celle des FLR. Votre réaction?
Je remercie beaucoup, monsieur le journaliste, la question que vous avez posée en ce qui concerne la guerre à l'Est. Mais je voudrais qu'on parte du début. Lorsque la guerre a éclaté, où était toute la population? Toute la population, en fait, s'est retrouvée dans la végétation. Femmes violées, enfants violés, épouses violées, et aucune activité économique ne peut se faire parce que tout est paralysé à cause de la guerre. Mais maintenant que les efforts du gouvernement ont été déployés, maintenant que la population regagne son toit, maintenant que la population peut retrouver son champ.
Mais ce n'est pas toute la population. Hein.
Non, je me place du point de vue de la situation de la population qui vit les sévices de la guerre. Je me place sur ce point-là. Les gens qui vivent les affres de la guerre, lorsqu'ils peuvent retrouver leur domicile, c'est très important, c'est ça la paix. C'est une donnée très importante à considérer.
Donc vous voulez dire que le bilan est pour l'instant positif par rapport
bilan,
à la restauration de la paix?
Le bilan est nettement positif à l'instant, sur le plan de la restauration de la paix.
Voilà, mais toutes les populations ne sont pas encore rentrées hein, chez elles. Donc, nous avons également dans ce studio Monsieur Albert Mpéti. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national MLC, donc de l'opposition. Vous, en ce qui concerne la paix à l'est du pays, quel petit bilan hein, tirez-vous déjà des 3 mois du gouvernement, des 100 jours hein, du gouvernement Mobutu?
Bien, d'abord, je voudrais penser à nos populations, les frères et sœurs de l'Est, qui continuent à souffrir, contrairement à ce que dit mon collègue Dupalu, qui dit que cette population a recouvré la paix, on en est loin. Vous savez, c'est une situation pénible pour le pays. Concernant la paix à l'Est, dont le gouvernement en a fait un de ses objectifs, nous constatons que il y a l'opacité et l'illisibilité pour ce qui est des accords, des opérations combinées entre le FARDC et le RDF contre le FDLR, surtout pour la durée des opérations, contradiction, cacophonie entre membres du gouvernement. L'espace opérationnel n'est pas déterminé. Le mode d'intégration dans les FARDC des éléments CNDP, PARECO et autres bandes armées, ainsi que le sort de Kunda. Donc, tout ça n'est pas du tout clair. Alors, nous redoutons que les opérations ainsi planifiées ne provoquent une fois de plus des massacres de nos compatriotes civils sur notre sol et dont les autorités congolaises seront rendues un jour responsables et coupables. Alors, je voudrais dire aussi,
rapidement,
lorsque le Premier ministre s'est rendu à l'Est, il a constaté qu'il y avait des détournements, des denrées alimentaires et biens qui étaient destinés soit à la population et particulièrement aux FARDC. Il en est revenu, brandissant ce qu'il avait trouvé dans les magasins et marchés à Kisangani. Mais depuis lors, c'est le blackout complet, silence radio. On aurait dû, nous on s'attendait au niveau de l'opposition, qu'il y ait des sanctions au niveau des officiers véreux qui sont en train de détourner les biens destinés
et forces armées. Et il avait promis hein, dans son mot...
Bah oui, il avait promis, oui, les promesses sont bien beaux. On peut promettre, mais nous,
on veut des politiques générales.
Nous, on veut des résultats concrets.
Voilà.
Et là, il a failli.
Voilà. Professeur Jean Routemikongo, bonsoir.
Bonsoir, oui.
Vous êtes professeur au département des sciences politiques et administratives de l'université de Kisangani, dans la province orientale, et professeur visiteur dans plusieurs universités à l'est du pays, mais vous intervenez dans cette émission en tant qu'analyste politique. Votre bilan aussi des 100 premiers jours d'Adolphe Mouzitou en ce qui concerne le rétablissement de la paix à l'est du pays?
Oui, merci beaucoup. D'emblée, m'associer au capi qui vient de perdre l'aide meilleur présentateur, notamment Joachim qui vient de nous. Et j'aimerais vous présenter mes condoléances à l'occasion de cette perte.
Merci beaucoup.
Revenons maintenant à la question posée à propos.
Voilà, nous avons quelques petits problèmes, hein, juste le temps de vous relancer, mais je reviens à vous, monsieur le député national Donatien Mazono. Je rappelle que vous êtes du PALU, hein, le parti d'Adolphe Mouzitou. Mais qu'est-ce que vous répondez à l'honorable Adolphe Mpéti?
Albert
Mpéti, excusez-moi, qui pense qu'il y a cacophonie dans la gestion de la crise à l'est du pays.
Et surtout l'opacité.
Oui.
Oui. Mon collègue évoque l'opacité et l'illisibilité de l'action du gouvernement en ce qui concerne la paix à l'Est. Mais il s'agit, je crois, qu'en toute chose, il faut considérer
qu'il s'agit là des stratégies de guerre, des stratégies militaires.
Mais parce que le président de l'Assemblée nationale avait dit qu'il n'avait pas été informé au préalable.
C'est le langage. Je vous dis ceci, que les stratégies de guerre, les stratégies militaires, ne sont pas vulgarisées. Ce sont des stratégies qu'il faut jalousement garder jusqu'à la fin de cela. Et je voudrais que l'on puisse, lorsqu'on parle de la paix à l'Est, que l'on puisse juger cette situation par rapport aux résultats. Nous attendons voir des résultats finaux, après les échanges qui sont donnés, pour voir si l'opération était mal pensée, mal menée ou quoi. En ce qui concerne l'opacité, moi je voudrais bien, est-ce qu'on peut révéler le temps de guerre à la communauté? Non. Non.
Même pas aux animateurs des institutions.
On ne peut pas, je vous dis, le plan de guerre, c'est assigné aux hommes commandés pour mener la guerre, et ce sont des choses tenues secrètes, parce qu'il y va de la réussite de ces opérations.
Mais il faut que ça passe quand même par le Parlement.
Mais lorsque le président de l'Assemblée nationale dit qu'il n'était pas informé, posez la question, ça l'engage.
Voilà.
Il ne peut pas dire qu'il n'était pas informé ou pas, ça l'engage.
Mais qu'est-ce que vous répondez à M. Pascal de Bukavu? Parce que beaucoup d'auditeurs ont réagi. Hein. Il dit que Mouzito doit tout faire pour convaincre le président de la République à faire rentrer les troupes de l'armée rwandaise dans leur pays. Sinon, nous, du Kivu, nous ne le lui pardonnerons jamais. Qu'est-ce que vous répondez à Pascal de Bukavu, M. Kivu?
Oui, merci. Je sais. Merci beaucoup de la question. Je sais qu'il est dit que ces troupes ne vont pas rester là-bas longtemps dans le sol congolais. Il y a un délai qui leur est imparti, à l'issue duquel ils doivent rentrer.
C'est quel délai?
Le délai qui est imparti. Le président a dit à la fin de ce mois de juillet, il faut que les troupes...
À la fin du mois de février?
À la fin du mois de février.
Est-ce que vous pensez réellement que c'est possible, vu l'ampleur de ces opérations?
C'est ce qui est dit. On appréciera s'il faut... S'il faut y aller en venant à cet avion, on le fera.
Voilà. Nous avons la réalisation des signaux que nous avons en ligne. De nouveau, le professeur Otebi Congo. Professeur, vous m'entendez bien?
Je vous suis maintenant très bien.
Voilà. Votre petit bilan par rapport aux 100 premiers jours d'Adolphe Mouzito à la tête du gouvernement?
J'aimerais d'abord m'associer à la radio Capi pour lui présenter mes sincères condoléances à l'occasion du décès de l'un de vos meilleurs présentateurs de la radio Capi.
Merci beaucoup.
En deuxième lieu, j'aimerais préciser que ce n'est pas dans 100 jours qu'il est possible de faire un bilan exhaustif d'un gouvernement qui a eu à relever des défis majeurs, notamment celui de la sécurité à l'est du pays. Et dans une émission antérieure, à propos de l'an 2 d'avènement au pouvoir du président Kabila, j'avais dit ceci, que l'un des plus grands défis auxquels le chef de l'État et le gouvernement Zinzenga à l'époque étaient confrontés, était notamment le retour à la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et au-delà de tout sentiment et de passion que soulèvent les opérations actuelles avec l'armée rwandaise et l'armée ougandaise à l'est et au nord-est de la République démocratique du Congo, s'il faut juger le gouvernement Mouzito à l'acte, on doit se rendre à l'évidence qu'il s'agit là d'un progrès, hein, d'une avancée quand même dans le chemin de retour à la paix dans notre pays. Hein. Qu'on soit de l'opposition ou des pouvoirs, les faits sont petits. Il faut noter qu'il y a des progrès dans ce domaine de la pacification à l'est de la République démocratique du Congo.
Un des domaines
dans lequel le président de la République et le gouvernement risquent d'être sévèrement jugés si jamais ils ne réussissaient pas à ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je me réjouis personnellement de constater que la paix est en train de rentrer laborieusement, bien sûr, à l'est de la République démocratique du Congo.
Malgré l'opacité que dénonce l'honorable Albert Mpeti du MLC, l'opacité qui a entouré cette opération conjointe, notamment armée rwandaise et armée congolaise, contre les FLN.
Ce sont des querelles politiciennes, hein, à mon avis. il y a une division, il y a une séparation des pouvoirs entre les parlements qui réclamaient à être associés à cette opération et le gouvernement qui doit exécuter le plan de sortie de la crise qu'il avait proposé. Moi, je pense qu'il y a une division de travail entre les institutions de la République. Le Parlement de la République avait soumis au président un plan de sortie de la guerre, mais l'exécution courante de ce plan revient au gouvernement. N'empêche qu'il peut y avoir un dialogue entre les institutions, mais le gouvernement est en train d'exécuter les accords antérieurs, notamment depuis Nairobi, et les accords régionaux dans le cadre de la conférence internationale sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Moi, je pense que les institutions de la République ne devraient pas se regarder en chien de faïence. Bien au contraire, devant un défi majeur, devant un grand problème d'intérêt national comme celui-ci, on devrait taire la querelle et privilégier l'essentiel.
Merci. On va se retrouver avec vous, hein, honorable Adam Petit, parce que vous avez un petit retard par rapport au timing des autres. Merci. Mais les auditeurs, hein, ils ont beaucoup réagi. Il y a Bob de Guadolité dans l'Équateur qui pense que le bilan du gouvernement Mouzite en ce qui concerne l'Est du pays est à féliciter parce que cela ramène la paix à l'Est du pays.
Oui, bon, d'abord, je pense qu'il y a plusieurs choses que je voudrais dire. Répondre à mon collègue et au professeur. Le professeur, je me demande sur quelle planète il vit. Et je me demande s'il suit au quotidien tout ce qui se passe à l'Est. Dire qu'il y a la paix et que la population est heureuse maintenant à l'Est du pays, je pense qu'il n'est pas bien informé. Nous qui avons quand même quelques éléments comme politique, nous pensons que la paix n'est pas encore là et est loin de revenir d'ailleurs dans cette partie.
Mais la guerre a quand même cessé entre les deux.
Attendez. Oui, mais à quel prix? Les populations rentrent chez elles, comme disait mon collègue, les populations recouvrent leurs champs. On assiste maintenant à des réfugiés dans leur propre pays, et massivement d'ailleurs. Et les organismes internationaux de protection de la population ont difficile à sauver et à subvenir aux besoins de ces populations. Donc, nous dire ici que le gouvernement a clôturé ce dossier, ou c'est en bonne voie, mais c'est un peu audacieux, je trouve. Je trouve que c'est audacieux et c'est même faire injure aux populations de l'Est. Parce que cette population continue à souffrir. Et nous insistons sur l'île, sur l'opacité des accords qui ont entouré cette opération de l'Est.
Malgré les résultats que cela pourrait donner.
Quels résultats que ça pourrait donner? Nous avons des nombreuses inquiétudes parce qu'on aurait voulu qu'on nous dise dans quel espace opérationnel que ça se passe. On aurait voulu qu'on nous dise le mode d'intégration dans nos forces armées des CNDP, le PARECO et autres groupes. On va les intégrer sans qu'il y ait au préalable l'identification de ces personnes, sans qu'il y ait des critères de moralité ou de patriotisme. Merci. Et ça, c'est excessivement grave pour nous.
Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de choses. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Malheureusement, le temps nous imparti nous pousse à avancer. Donc, mais comment réagissent aussi certains Congolais interrogés à travers le pays sur les 100 jours du gouvernement Mouzito? Radio Okapi a promené son micro dans les rues de Goma, Kinshasa et Lubumbashi. Suivez d'abord cet élément avant de revenir dans ce studio.
Je reprends au nom de Frère-Pierre Kilimali. À Goma, nous nous réjouissons de cette coalition Rwanda Forces Armées de la République du Congo. Pour moi, c'est positif, le 100 jours de Mouzito. Je m'appelle Tenesor Karonde, président du groupe de nationalistes du Nord Kivu. Vraiment, nous sommes très ravis du fait que les populations passaient la nuit dans vraiment l'extérieur. Mais nous avons été surpris de sa nomination qui s'est décidé de venir nous rendre visite chez Goma.
Je m'appelle Saint-Claire Midagou. Pour ce qui est des 100 jours du gouvernement Mouzito, les 5 chantiers qui jusque-là ne sont pas encore visibles clairement dans le développement, le chômage est toujours là, les prix sont toujours en train de grimper.
Comment on a aimé? Bon, pour l'an dernier, on a 100 jours, on a mis un peu de salité. On a dit, si on a dit, 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 on a dit
sécurité.
Je m'appelle Anita. 100 jours après, vraiment, je trouve que le bilan pour le Premier ministre est vraiment négatif. J'ai comme l'impression que le gouvernement Gizenga Mouzito, il est pareil, donc il n'y a rien de changé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité.
Le sommet Zali, il a rechangé, Moussouba a changé déjà. Tout est dollar, et le moins, ceux qui sont en combien, et comme il y a passé, tant d'euros, il est comme à la tâche, il pas qu'il s'en. S'il y a moyen, à quitter déjà. Ça a démissionné.
Je suis venu à la maison de nous, on a cinq chantiers sur ma télévision. Mais je ne pas de cinq chantiers. À ce moment-là, je suis venu à la Abarise, Machumage, Nabita, si tout le monde a la bichine.
Oui, je suis Laurent, moi je suis à Lubumbashi. Il est difficile pour moi de juger le Premier ministre en 100 jours parce que le pays est en vaste. Sinon, c'est un homme qui a souci de travailler parce que nous voyons certaines réalisations qu'il est en train de faire sur place à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur. Il vient de presque faire taire la guerre à l'Est, c'est sa diplomatie, il faut lui jeter des fleurs. Je voudrais qu'on ait encore du temps, 100 jours c'est peu.
Merci beaucoup à toute l'équipe de Radio Kapi à travers les provinces qui nous a produit cet élément. Juste une réaction, hein, en une phrase, parce qu'on doit passer à la deuxième partie de cette émission par rapport à l'accélération des grands chantiers. D'abord avec vous, Monsieur Donatien Mazono, je rappelle que vous êtes député national du PALU, le parti d'Adolphe Mouzito. Réaction par rapport à ce que pense la population des 100 premiers jours d'Adolphe Mouzito.
Mais vous venez de l'entendre vous-même en suivant l'élément à partir des micros baladés à Goma et à Lubumbashi.
Mais vous n'avez bien entendu que les propos qui sont à votre avantage.
Non, c'est d'abord
les bilans sont quand même très durs. Hein.
Non. Les bilans est nettement positif selon ce qui ont été interviewé à Goma et ce qui ont été interviewé à Lubumbashi. Sauf ceux qui les répondants de Kinshasa. Ça sont très critiques, ils voient, ils considèrent les routes qui sont défoncées.
On a dit, hein, la dame en Saïlie a dit que le bilan était négatif. Hein.
Oui, c'est une dame. Les trois personnes sont à Lubumbashi.
Et qu'est-ce que ça fait?
Sur trois, deux ont dit c'est positif. J'ai suivi, j'ai très bien suivi, j'ai noté.
Ça ne vous interpelle pas que la population trouve quand même à redire.
Sur le plan de la statistique, sur le plan scientifique, c'est le pavé des châteaux sur lesquels on peut se fonder un jugement. Ce n'est qu'une appréciation, ce n'est qu'un sondage.
Mais c'est quand même des populations qui sont à la base. Hein.
Non, c'est trois personnes.
Mais si vous avez
une
réaction en une phrase par rapport à ce que vous venez entendre de la part de la population.
Bien, cette population est
certainement. C'est pas congolais, hein, c'est pas toute la population congolaise.
Disons que moi, j'affirme haut et fort que dans la globalité, la population est très déçue. Lorsque mon collègue dit que les personnalités, la population de Lubumbashi est heureuse et contente, mais là, je dois porter un faux. Lorsque on sait qu'à Lubumbashi, il va bientôt avoir plus de 300 000 chômeurs, que les entités industrielles ferment, et les Chinois qui étaient venus sont en train de repartir.
Cela n'est pas dû à la crise financière internationale, à la chute de cours des matières premières.
Gouverner, c'est prévoir. Je pense que quand on a la responsabilité d'un pays comme le nôtre, on doit pas se focaliser seulement sur les problèmes nationaux, mais sur les problèmes internationaux. On doit. Cette crise était visible, on voyait venir cela. Donc, pour moi,
elle n'a pas aussi surpris certains pays industrialisés.
Écoutez, ça c'est de leur responsabilité. Moi, je parle de mon pays. Si des responsables politiques ont été surpris, c'est qu'ils ont été distraits. Ils ne suivent pas les dossiers de l'État. Lorsqu'on suit les dossiers de l'État, on ne peut pas être distrait. Donc, on peut prédire ces événements. Dire qu'à Lubumbashi, on est heureux, là, vraiment, je suis très inquiet.
Non, la dame a dit que c'était négatif. Hein.
Moi, c'est négatif, oui. Mais on peut dire que cela. Qu'est-ce qui marche? Lorsque le Katanga va se retrouver dans ses bras avec plus de 300 000 chômeurs, vous pensez que ça ne va pas créer des problèmes sociaux et politiques?
Professeur Otemi Congo.
Oui, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faudrait éviter l'amalgame dans l'évaluation. Et à ce stade de débat, on est en train d'évaluer l'action du gouvernement dans le domaine de la sécurisation. Je ne sais pas si vous me captez.
On a changé dossier.
Oui, dans le domaine de la sécurisation. Et j'ai l'impression que le parti politique, à partir de Kinshasa, sont très mal informés. Nous avons suivi les témoignages d'un de vos enquêtés à partir de Goma qui se réjouit des actions du gouvernement dans le domaine de la sécurisation. Et dans le domaine de la sécurisation, on doit avouer qu'il y a des progrès, mais il faut aussi admettre que la tâche n'est pas achevée.
Mais
partage aussi l'opinion Je partage aussi l'opinion selon laquelle il est difficile de pacifier tous les pays dans 100 jours. C'est impossible.
Voilà.
C'est un défi.
Je partage aussi l'analyse
à propos de l'évaluation sur les autres chantiers. Le gouvernement a encore beaucoup de choses à réaliser dans le cadre des autres chantiers, notamment l'éducation, l'emploi et l'eau, l'électricité. Là, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Par rapport aux 5 chantiers du président de la République, vous avez suivi la population qui n'est pas totalement satisfaite. Hein, certains d'entre eux, quoi, qui ont été interrogés. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel bilan faites-vous des 700 premiers jours par rapport à la réalisation de ces 5 chantiers?
S'il faudrait faire un bilan, il faut le faire chantier par chantier. Par rapport à l'objectif du gouvernement en ce qui concerne la sécurisation, il y a un progrès. Par rapport aux autres chantiers du chef de l'État, lui-même avait reconnu lors de la conférence de presse qu'il n'est pas satisfait et que les actions sont prévues et que le chantier, on va donner un coup de fouet pour lancer ce chantier. Mais même l'opposition dans le contexte actuel de la guerre n'aurait pas réussi là où on est en train de critiquer le gouvernement.
Pourquoi? Pourquoi d'après vous l'opposition n'aurait pas réussi?
Le contexte ne s'y prête pas. La guerre, en même temps aussi la crise financière,
on n'a pas la gestion du pays. Je suis
en train de donner un coup de barre au seul chantier de la
République. Merci. Justement, nous avons quelqu'un, un député national de la majorité, hein, l'honorable Donatien Mazono. Cinq chantiers de la République, les 100 premiers jours, quel bilan?
Oui, moi je crois que la plupart de nos compatriotes ont une mauvaise définition et une mauvaise conception des cinq chantiers. Les cinq chantiers représentent un programme à être réalisé. Et un programme a un début et prend le temps que cela prend dans sa planification. Il n'est pas pour
même jusqu'au delà de 2011.
J'ai dit le temps que cela prend dans sa planification. Je ne crois pas que le président ait dit un jour que les cinq chantiers vont se réaliser en 2 jours. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit non plus que les 5 chantiers vont se réaliser en 2 ans. Il n'a jamais dit ça.
Et ça va
il a dit que c'est un travail qui commence pour le bien-être du peuple congolais, qui doit se faire avec toute harmonisation, avec tout effort, avec toute maîtrise. Ça, il l'a dit, il a souligné à maintes reprises. Les efforts sont remarquables. Les débuts de certains travaux sont remarquables.
Mais le mandat du chef de l'État, quand même, délimite. Hein. Et qu'est-ce que vous dites de l'emploi? Combien d'emplois le gouvernement Mouzito a-t-il déjà créé, par exemple?
Est-ce qu'il a construit les 5 chantiers par rapport à son mandat? Il a dit ça où? Dans quel texte?
Mais combien d'emplois? On le voit dans certains autres pays, hein, développés, et dans certains autres pays, peut-être aussi moins développés que la RDC. Le gouvernement a un programme, hein, dans les 100 premiers jours, il dit, par exemple, que nous avions l'objectif de créer 1000 emplois et nous en avons créé 800. Combien d'emplois le gouvernement a-t-il déjà créé?
Moi, je crois que là, c'est un jugement très actif que nous faisons du gouvernement. En 100 jours de son fonctionnement, nous voulons que l'on dise que l'on présente un bilan où le gouvernement a créé 10 000 emplois. C'est illusoire.
Mais pourquoi pas?
Alors, est-ce qu'on ignore les contextes internationaux de la crise?
Obama le fait.
Nous verrons de quelle situation pour nous retrouver aujourd'hui pour qu'en fait on puisse créer les emplois comme par baguette magique. On dit aujourd'hui, allez, il y a 1000 emplois qui sont créés, il y a 10 000 emplois.
Je veux
qu'on ait une certaine tempérance quand on juge, quand on parle de l'emploi. L'emploi, c'est un problème qui préoccupe tous les Congolais.
Les infrastructures,
il faut.
L'éducation, les infrastructures.
Vous voulez dire qu'il n'y a rien, ça c'est le point de
l'éducation. Qu'est-ce qui est fait en bref?
Mais vous suivez la télévision, vous voyez des écoles que l'on présente qui sont construites à l'aide du gouvernement, malgré les moyens modifs. Vous le voyez quand même.
Mais il y a quand même
le plan de l'eau. Vous voyez des efforts de bonnes fontaines que l'on passe par-ci, par-là, pour donner l'eau à la population.
Mais je reconnais
que c'est insuffisant, ce n'est pas suffisant, mais ce sont les efforts qu'on déploie pour rétablir la population dans ses droits.
Il faut reconnaître
ça dans un début, malgré qu'il y a beaucoup reste à faire.
Donc vous reconnaissez qu'il y a beaucoup reste encore à faire.
Bien sûr.
Albert Petit du MSP.
Bah, écoutez les propos de mon collègue François Montier. S'agissant des 5 chantiers, je voudrais dire que il est vraiment à craindre que les 5 chantiers ne soient que un projet mort-né, d'autant plus que la tricherie, la manipulation et la propagande ont poussé le gouvernement à présenter à l'opinion des réalisations financées par nos partenaires traditionnels comme faisant partie des cinq chantiers. Et je m'explique, on voit ça par exemple dans la réhabilitation des infrastructures. Tous les financements qui viennent de la BAD, Banque mondiale, Union européenne, Fonds politiques, etc., ont tendance à être présentés maintenant comme faisant partie de ce chantier. Nous devons être quand même honnêtes. Et je crois que si on fait le bilan, même des 100 premiers jours, les 100 premiers jours, on doit voir des signaux. On ne dit pas qu'on doit tout réaliser. On doit voir des signaux positifs.
Et vous n'avez encore rien vu au niveau de l'opposition.
Bon, prenons l'emploi. Parce que le chantier, les 5 chantiers, il faut les décomposer. Prenons l'emploi. Aujourd'hui, quelle est la politique gouvernementale par rapport à l'emploi? Par rapport à tout ce qui est énergie, l'eau et l'électricité, quelle est la politique aujourd'hui? Je crois que c'est une catastrophe dans la ville de Kinshasa, par exemple. Nos enfants
et à l'intérieur du pays aussi.
N'en parlons pas, là-bas c'est encore pire. Bon, nos enfants ne peuvent même pas étudier le soir. La vie est tellement difficile qu'on cherche à s'approvisionner en mettant un peu quelques nourritures dans le congélateur. On ne peut même pas. Donc, l'eau et l'électricité à travers Kinshasa, c'est le calvaire. Quand je vois tous les matins des mamans avec des bidons, je dis qu'un gouvernement responsable ne peut pas accepter cela au XXIe siècle, que sa population vive comme au Moyen-Âge. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, malheureusement, avec ce gouvernement.
Merci, Monsieur Albert Pétier. Je rappelle que vous êtes député national du MLC, donc de l'opposition, et secrétaire national du...
Élu Bidongo dans le Mandong.
Voilà, chargé des relations avec les partis politiques et associations. Nous avons également dans cette émission Jean-Anthony Congo. Il est professeur à l'université de Kisangani. Il intervient comme analyste politique. Est-ce que vous partagez le même point de vu que celui du député Albert Petit de l'opposition, professeur?
Je ne suis pas prêt à suivre le député de l'opposition dans cette analyse.
Mais vous êtes prêt à suivre ceux de la majorité, c'est ça?
Je ne suis pas de la majorité, je suis chercheur, politologue de formation. La question que vous posez est en rapport avec la conception de l'État, le rôle de l'État dans le développement national.
Il est un chantier particulièrement.
Dans aucun pays du monde, la reconstruction, le développement ne peut être laissé à l'État lui seul. Ça doit être le fruit de l'initiative combinée de l'État et de l'initiative privée.
Mais non, professeur, s'il vous plaît.
Dans l'état d'espèce ici, le seul chantier du chef de l'État devrait plutôt être considéré comme un programme incitatif, comme un plan incitatif. L'État lui-même a un rôle important à jouer, mais les particuliers, l'initiative privée doit s'impliquer pour contribuer à la réalisation de cinq chantiers.
Y a-t-il, d'après vous, eu de la part du gouvernement Mousité dans les 100 premiers jours, des mesures incitatives pour pousser les investisseurs étrangers à venir investir au Congo, à créer des emplois, par exemple?
D'abord, dans le contexte de guerre, l'argent fuit le bruit de botte, l'odeur de la poudre. Et c'est difficile dans le contexte de la guerre qu'on puisse attirer les investisseurs. Néanmoins, le gouvernement de la République, me semble-t-il, a quand même contact important avec des bailleurs de fonds, des partenaires traditionnels, et notamment la Chine qui est disposée à contribuer à l'exécution des cinq chantiers de chef de l'État.
Mais certains Congolais se montrent impatients par rapport à...
Vous voyez également les partenaires traditionnels se musculer au portillon du gouvernement pour venir demander de collaborer, de coopérer avec la République démocratique du Congo dans la reconstruction de ce pays.
Professeur, mais certains Congolais restent impatients par rapport à cette action des Chinois dans les cinq chantiers de la République. Ils disent qu'ils ne voient encore rien jusque-là.
Naturellement, ce n'est pas dans 100 jours ni dans 2 ans qu'a duré le gouvernement Gizenga et Mousito qu'on peut tout réaliser.
Mais les signaux, comme vient de le dire le gouvernement,
il est difficile de le reconstruire dans ces cas. Moi-même, je suis d'avis que même pas ce gouvernement sera en mesure de reconstruire ce pays au cours de la première législature. Chacun des chantiers constitue un programme qui peut prendre toute une législature. La reconstruction, l'eau,
c'est toute une législature. Je ne vois pas comment on peut terminer cela.
Merci beaucoup, professeur. Le gouvernement Mouzito totalise 100 jours, demain mardi 10 février 2009. Question, comment peut-on juger l'action de ce gouvernement par rapport à sa troisième priorité, l'économie? Nous en parlons ce soir avec trois invités et ça sera la deuxième partie de cette émission. Donc, comme invité, nous avons Donatien Mazono, député national et membre du parti politique PALU, du premier ministre Adolfo Mouzito, Albert Mpeki, député national MLC, élu d'Inongo dans la province du Bandundu. Il est dès l'opposition et depuis Kisangani intervient le professeur Jean Otemi Congo comme analyste politique. Donc d'abord, si vous le rappelez, de nos contacts et puis revenir dans ce studio.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Nous accueillons directement Magali Kabalé-Banza. Bonsoir.
Bonsoir, Claude.
Comment ont réagi nos auditeurs, je suppose, hein? J'imagine qu'ils ont été très nombreux à réagir.
Oui, nous avons eu beaucoup de réactions. Il y a notamment Rachidi Amouri de Butembo, Nord Kivu. Quel lien pouvons-nous établir entre les 100 jours de Mouzito et la matérialisation des 5 chantiers qui ont du mal à démarrer? Un auditeur anonyme estime que pour les 100 jours, le gouvernement se donne plus à la diplomatie, mais le social et l'économie ne bougent pas. Baron de Kinshasa, si Mouzito veut se faire accepter des Congolais, il doit d'abord bannir le retard de paiement des fonctionnaires de l'État. Doucet de Mbujimayi au Kasaï oriental dit attendre de l'application du budget 2009 le SMIC et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Un avis partagé également par Messiama Cité-au-Fil de Isiro en province orientale. Antoine Chico de Kalemi au Katanga, enfin, pense que le bilan des 100 jours du gouvernement Mouzito est négatif sur le plan économique avec la dépréciation du franc congolais. Voilà tout, que donc.
Merci Magali Kabalé-Bansari et merci également à nos auditeurs. Je reviens à vous, M. Donatien Mazono. Vous êtes député national membre du parti du Premier ministre Adolphe Mouzito. Je vois un auditeur qui dit, Antoine Chico de Kalemi au Katanga, qui pense que le bilan des 100 jours du gouvernement Mouzito est négatif sur le plan économique avec la dépréciation du franc congolais. Qu'est-ce que vous en dites?
Bien sûr, il s'agit là de donner un point de vue sur les 100 jours du gouvernement Mouzito en ce qui concerne le volet économique. Mais je voudrais que tous les Congolais puissent savoir que sur le plan économique, Mouzito, le Premier ministre, a croisé la crise financière dans l'ascenseur et a pris le même ascenseur et a atterri avec le même ascenseur au pays.
Sans fonds solution
et non. J'ai le suivre. Je vais prêter attention à ce qu'il dit. Et il cherche à atténuer les effets pernicieux de la crise. Il tient à maintenir l'équilibre budgétaire.
Mais il tient à les atténuer comment ces effets de la crise?
Justement. Quelles sont les mesures? Ok. Pour éviter la planche à billets. C'est-à-dire quoi, concrètement? Vous voyez, au niveau du fonctionnement de l'État, il y a des dépenses qui sont maîtrisées. Il n'y a pas de dépenses comprador. On se limite aux dépenses essentielles pour ne pas créer un dépassage dans l'utilisation de la monnaie. Et cela est maîtrisé. Je crois que ça vaut une salutation.
Mais comment se fait-il qu'à un certain moment, il y a eu quand même une dépréciation assez élevée du franc congolais qui a atteint les 500. D'ailleurs, aujourd'hui, on est passé de 775 lorsque Mouzito a été investi à 710 francs congolais la semaine passée. Donc, c'est une dépréciation du franc congolais d'à peu près 23%. Comment l'expliquer?
Et vous voulez dire que le Congo est à l'abri de la crise financière?
Mais justement, quelles mesures prévoyez-vous pour lutter contre cette crise qui frappe également le franc congolais?
Les mesures sont concrètes. Vous savez que nous, Congolais, nous vivons sur le plan alimentaire de beaucoup d'importations d'ailleurs. Alors qu'il y a lieu de produire nos propres richesses, notre propre alimentation, produire nous-mêmes, importer peu, c'est une des mesures. Ensuite, diminuer tout ce qui est Vous savez aussi que le fait qu'il frappe cela, l'inflation est augmentée par l'effet quoi. Il y a la baisse des cours des matières premières.
Soyez bref, hein.
Oui, la baisse des cours des matières premières.
Est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a une politique budgétaire assez rigide? La politique monétaire dépend de la banque centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement Mouzito consomme ou fait consommer aux Congolais ce que nous avons réellement en termes d'argent, en termes de richesse? Ou vous utilisez sur la planche à billets?
Je vous le confirme, la planche à billets est à bannir et on n'y recourt pas. Parce qu'on jetterait les Congolais dans l'abîme si on recourt à la planche à billets.
Merci beaucoup.
C'est un suicide.
Honorable Adolphe Mpeki du NFC.
Pas Adolphe, c'est Albert.
Albert, excusez-moi, il y a trop de 1. Hein. Albert Mpeki. Juste une minute. Donc, le taux d'inflation mensuel pour le seul mois de janvier 2009 est de près de 8%, selon certains analystes économiques, quand même beaucoup. Comment l'expliquez-vous? Et est-ce qu'il y a quand même quelque chose de positif dans l'économie, en termes d'amélioration de l'économie du pays, depuis les 100 jours de...
Vous savez, d'abord, dans quel cadre le Premier ministre a eu à présenter son budget?
Est-ce qu'il ne doit pas, bénéficier des circonstances atténuantes de la crise financière internationale?
Il ne faut pas. Le professeur analyste, qui s'est d'ailleurs démasqué, parce qu'il est d'un camp bien précis, je tenais à le dire, et je voudrais dire...
Ça m'engage sur vous-même.
Ça m'engage sur moi-même. Comme analyste, il ne doit pas faire la complaisance. Il doit aller au fond des choses. Mais pour revenir à votre question, je voudrais dire ceci. Lorsqu'il a présenté son budget, ce budget, nous, à l'opposition, nous avons dit que ce budget était un budget trop pauvre. C'était un budget qui ne correspondait pas à la réalité économique de notre pays.
C'est-à-dire
le cadre macroéconomique était dépassé. Alors que tout le monde, partout dans le monde, on voyait, on parlait de récession, non, nous on parlait de la croissance. Alors, le professeur a dit encore là que la Chine va nous pourvoir de l'argent. Mais la Chine maintenant est en pleine récession. Ce n'est pas la Chine qui va nous envoyer l'argent. Alors, tout ça, ça fait pas très sérieux lorsque on gère ces grands dossiers d'État. Parce que somme toute, ce que nous sommes en train de dire ici et de faire, ce sont des grands dossiers d'État. Et il faut les prendre avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de considération et beaucoup de compétences.
Vous pensez que rien n'est amélioré, dans les vécus quotidiens des Congolais?
Mais écoutez, nous, comme parti de l'opposition, nous sommes près de la population. Nous sommes en train de voir, de constater le calvaire quotidien, le calvaire quotidien de nos populations.
Merci.
Lorsque nos populations ne peuvent même pas envoyer les enfants à l'école, savez-vous que le taux d'alphabétisation a fortement et drastiquement chuté?
Et qu'est-ce que vous pouvez dire alors en un mot, par rapport à l'économie, à la situation sociale du Congolais?
Quand on n'est pas capable, eh bien on lâche le tablier. Et que ceux qui sont plus compétents reprennent ce tablier pour que au moins qu'on sorte cette population de ce calvaire dont ils souffrent.
Et si le MLC était au pouvoir, dans les mêmes circonstances, vous pensez qu'ils auraient pu trouver une solution?
Tout à fait, parce que nous avions un programme. Nous avions un programme bien précis.
Merci.
Et je peux proposer à la population. Mais nos amis ici qui sont aux affaires, c'est une
illusion.
En termes de groupe parlementaire, vous êtes inférieur à nous, le Palou.
Alors,
un peu de respect pour nous.
Laissez le professeur Otimi Congo intervenir par rapport à la situation économique, de la population. Professeur, soyez bref, s'il vous plaît. Allô, professeur?
Le gouvernement actuel a hérité d'une situation désastreuse, notamment la crise financière internationale. Même ceux qui sont dans l'opposition ne parviendraient pas à relever ces défis. La crise a été posée de l'extérieur et je crois que ça relèverait d'un miracle qu'ait réussi cela où le gouvernement à des peines pour relever les défis.
Professeur, s'il vous plaît,
on est confronté à ce problème. La situation va s'amender au profit du bien-être de la population.
Je vais vous lire quelques réactions en quelques secondes. Un auditeur anonyme estime que pour les 100 jours, le gouvernement se donne plus à la diplomatie, mais le social et l'économie ne bougent pas. Il y a aussi Doucet de Mbujima au Kasaï oriental qui dit attendre de l'application du budget 2009, le SMIC et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Un avis partagé aussi par Messia Massi qui au fil d'ici dans la province orientale. En 30 secondes, s'il vous plaît.
il faut admettre que la crise est réelle. Et je crois que les résultats obtenus dans le domaine de la pacification, on le doit beaucoup à la diplomatie. Et ces actions ne sont pas exclusives. Au contraire, il faut combiner l'action militaire sur le terrain et la diplomatie.
Merci.
Je crois qu'il y a la paix et on peut avoir des apports, des désirs gestionnels de nature à donner aussi de pouvoir à l'économie nationale.
Merci, c'est par vos propos que nous mettons un terme à cette émission. La réalisation a été assurée ce soir par Jean-Claude Toumba Kamanga, la mise en onde par Alain Goy. Merci à toute l'équipe de Dialogue en Congolais qui vous a préparé cette émission. Pierrot et Lamégie, Aurélie Moupapa, sous la coordination de Ben Kabamba. Merci à tous nos invités. Au revoir. Oh, Kati, oh, Kati.